Vous écoutez France Culture.
Pura vida. Vida y muerte de William Walker.
Pura vida. Vie et mort de William Walker.
De Patrick Deville.
Adaptation Arnaud Bertina.
Quatrième épisode.
La première partie de Pura vida se déroulant au Nicaragua, le narrateur en vient à écrire, dans les marges de la vie de William Walker, l'histoire du mouvement sandiniste. Depuis les victoires militaires et politiques de Sandino au début des années 30, jusqu'à l'arrivée au pouvoir des guérilleros sandinistes en 1979.
À 14h05 local time, Managua, Nicaragua, Beautiful Town, le vendredi 21 février 1997, l'enquêteur scrupuleux assis sur une chaise métallique rouge peut noter que les gargotes en tôle au bord du lac sont surmontées de fumerolles grises et bleues qui glissent devant le volcan Momotombo endormi à l'horizon comme un vieil éléphant. Attablé un peu plus loin, mais que je peux entendre, un jeune homme lit à voix haute un article d'El Nuevo Diario pour un homme plus vieux, au regard fixe, peut-être aveugle.
Vienen a remacharnos el clavo. Ils viennent enfoncer le clou. Une délégation du Congrès nord-américain viendra sous peu à Managua négocier l'indemnisation des biens nationalisés par la Révolution. Mais ça, c'est un peu comme si on s'excusait pour la Révolution, non? C'est tout de même fou. Pourquoi se soumettre comme ça?
Il y a eu le temps des sandinistes. Violeta Chamorro, ensuite, c'était la transition. Que le pays ait pu voter pour Arnoldo Alemán, ça marque l'échec définitif de ce qu'on a tenté. De tous nos combats. C'est le retour du somocisme, c'est-à-dire des Américains. J'ai déjà cité Roosevelt, sa phrase à propos du vieux Somoza. C'est un fils de pute, mais c'est notre fils de pute.
C'est fou. Ensuite, ils reviennent sur le scandale de la piñata.
Oh, alors arrête de me faire la lecture. Je préfère écouter le vent dans les palmiers et sous les parasols. Ce scandale, c'est une machination pour jeter le discrédit sur nous. On a combattu la plus pourrie des dictatures. C'est quand même pas pour rien qu'on a surnommé Somoza El Vampiro. C'était un monstre. Ce qu'il a fait, très peu de dictateurs l'avaient osé avant lui. Bon, Néron, oui, dans un sens.
Mais pourquoi l'avoir surnommé Vampire et non pas Néron, par exemple? Et pourquoi même Néron, d'ailleurs?
Mais voyons, Néron, c'est simple. Parce qu'El Vampiro a fait bombarder Managua par l'armée de l'air, juste avant de fuir. Tu devrais savoir ça tout de même.
Je sais ça, tu le racontes tout le temps. Mais Néron...
Enfin, c'est facile. Néron a mis le feu à Rome. Il a mis le feu à sa propre ville.
Et le vampire, c'est pour les poches de sang, c'est ça?
Après le tremblement de terre de 1972, Somoza a revendu à son propre compte les lots de plasma de l'aide internationale. Au lieu de les distribuer aux blessés dans les dispensaires, les hôpitaux.
Le Somoza dont parlait le vieil homme était le troisième du nom, celui que les sandinistes avaient chassé en 1979. Il avait succédé à son frère aîné, qui avait pris la succession de leur père, Anastasio, le fondateur, l'assassin de Sandino. Sur chacun d'entre eux circulaient les pires horreurs, tristement commune aux autres dictatures, et d'abord celle du zoo rempli de fauves, que les dictateurs font tous construire à un moment ou à un autre de leur règne. Pour le vampire, ça avait été sur la colline de Tizcapa, où se trouvaient son bunker et le siège des troupes d'élite. Les cages des lions et des tigres alternaient avec celles des prisonniers politiques. Il y avait également sur cette colline un palais pour sa maîtresse, Dinora Sampson. C'est de ce palais qu'en sa compagnie, avant de prendre la fuite, le dictateur avait regardé brûler Managua en juillet 1979. Lorsque ses forces aériennes avaient bombardé les quelques quartiers encore debout depuis le tremblement de terre de 1972, pour ne livrer qu'un champ de ruines fumantes aux sandinistes et à leurs alliés cubains, des castristes qui n'avaient pas dû se sentir trop dépaysés pendant les 10 années de la révolution sandiniste, en se promenant dans leurs uniformes vert-olive au bord du lac Solotlan, où l'air est humide, où de l'eau monte une odeur un peu poisseuse, et parce que du porc grésille sur les braseros des gargotes. ou si quelque chose avait dépaysé les soldats envoyés par Fidel pour soutenir la révolution sandiniste, ce fut peut-être le côté provincial de Managua, qui n'a jamais eu les tours flamboyantes des grands hôtels art déco couleur pastel du Vedado de la Havane, ni les splendeurs passées des villas blanches de Miramar, aux colonnes enroulées de philodendrons en train de moisir au fond des parcs, ni les pavés de bois de la place d'armes, ni les grues, ni les tankers du port cubain.
Oh, vous savez, la solidarité entre Cuba et le Nicaragua ne date pas de la guerre froide. Elle est même antérieure au marxisme. Au milieu du 19e siècle, c'est William Walker, un nord-américain, qui a officiellement accueilli les exilés cubains indépendantistes. Et au 20e siècle, c'est Guevara, un argentin, qui nous a soutenus alors qu'on luttait contre Somoza.
Oui, je connais un peu l'histoire de William Walker.
Et ici, les internationalistes dépêchés pour nous aider étaient encadrés par trois Cubains. Le général Ochoa.
Le héros d'Afrique.
Exactement. Ochoa était ici pour diriger la mission militaire. Antonio de la Guardia était lui à la tête des tropas, les troupes spéciales si vous voulez. Et Andrés Barahona López, alias Renan Montero. Celui-là, Ortega lui a donné la nationalité nicaraguayenne pour pouvoir le nommer à la tête des services secrets sandinistes.
Dans mon enquête sur les 14 juillet et la réapparition de la fièvre révolutionnaire, je revenais souvent au cas d'Arnoldo Ochoa et de Tony de la Guardia. Le 14 juillet 1989, 10 ans après la victoire des sandinistes à Managua, Arnoldo Ochoa et Antonio de la Guardia s'étaient retrouvés une dernière fois à la Havane devant un peloton, malheureux fusible dans un court-circuit du narcotrafic international. Et le régime castriste, pris au piège, avait eu la vigueur et la furie d'un coyote capable de ronger sa patte prisonnière et ensanglantée pour s'enfuir en boitillant. Ce 14 juillet 1989, qui est le jour anniversaire de la naissance du Che, selon Paco Ignacio Taibo Dos, constitue sans doute la scène finale des révolutions cubaines et nicaraguayennes, et peut-être même jour pour jour de 2 siècles de révolution. Car Ochoa n'était pas qu'un grand soldat de Castro. Il était plus que ça. En partie, je dis bien en partie, l'âme, au moins pour les symboles, de la révolution castriste. À 18 ans, Arnoldo Ochoa était auprès de Che Guevara et de Fidel Castro dans la Sierra Maestra. Plus tard, il avait été envoyé au Nicaragua, et une fois sa mission terminée, il était allé gagner la guerre d'Angola. Cette nuit-là, à 48 ans, après avoir salué chacun des soldats du peloton et refusé le bandeau, il bombe le torse devant la salve, dans une attitude qui avait été, non loin de là, 138 ans plus tôt, à l'époque de Narciso López, celle du colonel Crittenden, âgé de 28 ans. Alors qu'on creuse déjà leur tombe, anonyme, dans le cimetière de Colonne, un convoi de Mercedes noires traverse Miramar. Assis au fond de l'une d'entre elles, jamais la même, le vieux cheval de retour, Chronos repu à la longue barbe grise, maître de l'île depuis 1959, consulte son agenda. Le soir même, Castro assistera à la résidence de France, au bicentenaire de la prise de la Bastille. Ouais, ce 14 juillet 1989 constitue bel et bien la scène finale de ces révolutions sud-américaines issues de la française.
Vous savez, Castro lui-même a dû sentir quelque chose comme ça. Des compagnons cubains m'ont raconté que Fidel était bien à l'origine de ce procès. Qu'il en avait lui-même dicté l'acte d'accusation. Mais qu'il a cherché dans le même temps à soustraire Tony de la Guardia au peloton d'exécution.
Le vieil homme me raconta alors un huis clos de tragédie obéissant aux 3 unités sempiternelles. Celle du temps, quelques heures dans la nuit du 2 juillet 1989. Celle du lieu, le bureau de Chronos à la barbe grise, au 3e étage du palais de la Révolution, au cœur de la Havane, et celle de l'action. Le leader Maximo reçoit secrètement un simple mortel qu'il a lui-même jeté en prison 3 semaines plus tôt et dont le procès s'est ouvert il y a 2 ou 3 jours.
Antonio de la Guardia était un officier irréprochable, que Castro a plusieurs fois remercié publiquement pour la petite partie visible de ses activités clandestines. Cette nuit-là, il veut convaincre de la Guardia d'accepter une ultime et sublime mission, qu'il salisse lui-même sa mémoire, qu'il s'accuse de tous les crimes du régime. Je te condamne, mais tu ne bronches pas.
Le vieil homme avait beau jeu de présenter ainsi Tony, car il n'est pas certain que les dites activités autorisent quiconque à voir en lui un officier exemplaire, sauf à penser que cette exemplarité repose sur la seule obéissance aux ordres. Manifestement compagnon de lutte, le vieil homme feint de croire que ses activités clandestines n'étaient pas mafieuses, ou en tout cas très éloignées d'une défense orthodoxe de la cause de la Révolution.
Je suis colonel des Tropas, nageur de combat et parachutiste. J'ai été engagé sur tous les théâtres extérieurs. On m'a décoré. Et pour la première fois depuis 30 ans, Cuba n'a plus besoin de son armée. La Révolution n'est plus à défendre. On me confie un poste de civil. Des sociétés offshore au Panama, le trafic d'armes et de cocaïne, l'achat de matériel informatique, la vente de cigares. Je mets du temps à comprendre et, quand je pose enfin les bonnes questions, on me répond qu'il s'agit d'alimenter la révolution en monnaie convertible. Depuis des mois, je ne sais plus où j'en suis. Hier, j'ai soudainement eu la vision de mon uniforme sur un cintre dans un placard. Depuis des mois, je ne porte plus que des shorts et des chemisettes. Est-ce que j'aurais dû aller pêcher la langouste en uniforme pour ne pas perdre le contact avec ce que je suis, ce que j'étais ? Faire porter par quelqu'un d'autre ces valises emplies de poudre blanche et de billets verts pour ne pas savoir ce qu'il y avait dedans ? À Tony, celui qui sème le bien. Sur le moment, la dédicace de Gabriel Garcia Marquez m'a fait glousser de plaisir. Depuis, je me demande si elle n'avait pas quelque chose d'ironique. Si même Gabriel n'était pas un peu amer. Je sais qu'il cite une phrase de Bolivar dans ce nouveau roman où il imagine les derniers jours du Libertador. Celui qui sert une révolution laboure la mer. Gabriel y pensait-il en écrivant pour moi ? À Tony, celui qui sème le bien ? L'argent entrait par conteneur entier dans les sociétés commerciales dont j'ai eu la charge. À Tony, celui qui sème le bien. Les narcotrafiquants arrêtés en Floride sont en train d'être jugés. L'étau se resserre autour de Cuba et cet étau a le côté râpeux de la corde qu'on pourrait me passer autour du cou. Depuis combien de temps surveille-t-on mes déplacements dans la Havane ? Fuir ? Tout ça n'est plus qu'une question d'heure, n'est-ce pas ? Je n'ai plus mis les pieds dans mon bureau depuis combien de jours ? La peinture ? La plongée sous-marine ? Garcia Marquez semblait très heureux que je lui offre une de mes toiles. Je sens la corde autour de mon cou, le regard d'un procureur dont on aura écrit le texte. La corde, non, je suis un soldat. Je sens le métal froid pénétrer mon corps. J'ai froid. Je sais trop le fonctionnement de la police ici à Cuba. Si quelqu'un vient m'arrêter bientôt, est-ce que j'aurai peur ? Est-ce que ce sera un soulagement ? Je connais trop Castro et la logique de son pouvoir.
Les jumeaux de la Guardia étaient au début de la Révolution des fils de bonne famille habitués du club nautique de Miramar. Tony de la Guardia et le leader Maximo s'étaient rencontrés là, autour des bassins, pour la première fois en 1960, à la remise des coupes d'une régate. Tony de la Guardia avait 23 ans. C'était l'époque où le jeune chef des Barbudos et le vieil Ernest Hemingway fêtaient la Révolution comme larrons en foire, sous les palmiers du tropique du Cancer. C'était la période de l'exaltation et du grand souffle révolutionnaire. Maintenant mis aux arrêts, pion majuscule dans la stratégie de dédouanement imaginée par Castro, peut-être se revoit-il, combattant victorieux, repoussant avec d'autres sur la plage de la baie des Cochons les troupes américaines envoyées par Kennedy. Peut-être se revoit-il aussi en Syrie ou au Yémen, en Suisse ou à New York. Pendant 30 ans, il s'est vu confier les missions les plus secrètes et toujours à la limite du grand banditisme. Une trentaine d'opérations pleines de poudre blanche et de billets verts, du Liban au Guatemala, au Venezuela.
On dit pourtant que c'est lui qui a imposé l'hymne, pas très martial, n'est-ce pas, un peu surprenant, de Chiquitita. Au moment où il organisait le front sud contre Somoza à partir du Costa Rica.
Chiquitita ?
Je ne vois plus, jeune homme. Mais chez les aveugles, vous le savez sans doute, les autres sens se développent considérablement. C'est comme une roue de secours. Et je vous ai entendu sourire. Non, non, je ne vous chanterai pas, Chiquitita. On disait aussi qu'il se promenait partout avec des cassettes de Simon & Garfunkel. Alors vous pensez...
Le vieux militant sandiniste avait dit « pourtant ». Il continuait donc de voir en Tony un héros sans tache. Il ne parvenait pas à lui reconnaître une forme de complexité. Tony ne pouvait avoir fait cette blague un peu potache, choisir Chiquitita pour hymne du combat qui devait libérer le Nicaragua. Les héros doivent être sans relief.
En pleine nuit, où m'emmène-t-il ? Mon procès est en cours, ça ne peut donc pas être pour une exécution. Dans un cauchemar absurde la nuit dernière, j'étais devant eux. Je leur montrais le talisman capable de me sauver. J'ai autour du cou cette photographie en noir et blanc sur laquelle je souris. Fier, au moment de recevoir l'accolade de Castro. Je rentre du Chili, c'est en 1973. La photo est étrange car Allende est mort et nous sourions. Mes fidèles étaient heureux de me revoir, et moi d'être encore en vie. Car j'encadrais la garde personnelle d'Allende, et j'étais donc le 11 septembre dans le palais de la Moneda assiégé par les troupes de Pinochet. Mais j'ai réussi à revenir clandestinement à La Havane. Je montre cette photographie au tribunal. Je veux alerter les gens rassemblés pour me juger. Je me démène comme si c'était eux. Oui, c'est eux. Ils sont pris dans un cauchemar, une hallucination. Je dois les aider à en sortir. Et cette photo de Fidel et moi a le pouvoir de leur faire prendre conscience. Ils sont en train de commettre une erreur qu'ils regretteront. Au réveil, j'avais la gueule de bois des pires matins. Pour se sauver, la révolution doit se nourrir de ses enfants. Les dévorer. Comme Chronos.
Cette nuit du 2 juillet 1989... C'est vers le bureau du troisième étage du palais de la Révolution qu'on mène Tony de la Guardia, qui se retrouve, pâle, épuisé et plus que surpris, face à Fidel Castro, dont il sait qu'il est à l'origine de ses pires cauchemars, qui a composé la liste des officiers inculpés qu'il jette en pâture à l'opinion publique internationale. Il a composé le jury militaire. C'est lui qui rédige anonymement les éditoriaux du quotidien Granma. C'est encore lui qui parvient à mêler à ses accusations de narcotrafic le nom du général Ochoa pour mater son insubordination et peut-être ses projets de rébellion. Le leader Maximo pense-t-il alors au Libertador qui hante son sommeil, à Simon Bolivar qui n'avait pas hésité à envoyer, au nom de la raison d'État, le général Piard devant un peloton d'exécution? C'est la première fois depuis l'arrestation de Tony de la Guardia que ces deux-là sont face à face. Et cette confrontation n'arrête pas le cauchemar. Le leader Maximo veut un fusible fiable. C'est le rôle qu'il assigne à Tony de la Guardia, que toutes les dénonciations remontent jusqu'à lui et aucune au-delà. Après, conclut-il en balayant l'air d'un grand geste du bras, on s'arrangera entre révolutionnaires. Quelques tonnes de poudre blanche ou quelques millions de billets verts ne sauraient entraver la marche vers le paradis des révolutionnaires. Puis le leader Maximo abandonne le sujet et parle encore, retrouve le torrent de ces mots que chaque nuit, depuis 30 ans et quel que soit son interlocuteur, il déverse du fond de la Havane. Il est à nouveau question de l'avenir glorieux de la révolution, de la nécessité de resserrer les rangs dans cette période où l'Union soviétique se désagrège. Ils sont à nouveau deux comploteurs qui éprouvent une fascination réciproque, comme s'ils reprenaient une conversation depuis 30 ans intermittente. Pendant toute la fin du procès, Tony de la Guardia assumera sa mission. À l'énoncé du verdict et de sa condamnation à la peine capitale, il ne dira pas un mot, regagnera sa cellule pour de longs mois, pense-t-il. De son côté, le leader Maximo fait soigner sa fatigue dans une clinique. Il convoque ses plus anciens compagnons d'armes, les survivants de la Sierra Maestra, quand il ne met pas sur pied un scénario autrement pervers.
Por aquí, comandante.
Satané gilet pare-balles. Avant, je ne le sentais pas. Maintenant, il me fait mal.
Por aquí, comandante.
Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous venez faire là? Oh, bon sang! Qu'est-ce que tu dis?
Doucement. Doucement. Ah, Prudencio.
Fidel? Que fais-tu ici, à cette heure?
Où l'emmènes-tu? J'ai le droit de savoir. Pas avec de la guardia. Pas avec de la guardia.
Ça suffit. Je vais m'habiller.
Pas juste un pantalon. Surtout, ne va pas te raser pour moi. Je suis venu parler. Je ne suis pas là pour faire banquette dans ton salon en attendant que tu te fasses beau.
Qu'est-ce que tu veux?
Je te l'ai dit. Parler avec Prudencio.
Elle te proposait juste du café ou un verre. Laisse, je m'occupe de tout. Laisse-nous.
Mais le café, je m'occupe de tout, s'il te plaît.
Et il s'assoit à la table de la cuisine, son énorme corps raidi par la carapace du gilet pare-balles. Cette nuit encore, il feint de demander conseil à un vieil homme en pyjama, qui écoute en opinant son interminable monologue, dont il s'absente lui-même parfois, absorbé par l'image de Tony de la Guardia. Celui-là aura eu le monde entier comme terrain d'action, et les femmes, et les amitiés indéfectibles, quand lui-même devenait, pendant ce temps, un monstre de pouvoir et d'inévitable solitude, un personnage pour les romans de Gabriel Garcia Marquez. Il est absolument seul pour 100 ans peut-être, un vieux général fourbu, perdu en son labyrinthe de multiples résidences secrètes, de Mercedes noires, un homme auquel sont refusés depuis 30 ans les gestes les plus simples. Il est un homme qui, depuis 30 ans, pas une fois n'a pu s'asseoir prendre un verre en terrasse sans garde du corps, et voir passer les longs ciseaux des jambes des femmes, ni dans son pays, ni dans un autre. Être un lecteur anonyme d'un journal dont il n'aurait pas écrit lui-même les articles en secret, la nuit, seul. Selon plusieurs témoins, le leader Maximo évoquera pendant ces nuits, devant ses vieux compañeros harassés de sommeil, l'éventuelle possibilité de la chirurgie plastique, rendre méconnaissable Tony de la Guardia, comme on avait rendu méconnaissable le Che pour son entrée en Bolivie. Mais le 14 juillet 1989, 10 jours après la fin du procès, un entrefilet laconique et encore une fois non signé annoncera dans le quotidien Granma que les sentences prononcées dans le jugement ont été appliquées et les deux accusés fusillés.
C'était
Pura Vida, Vie et mort de William Walker.
De Patrick Deville.
Adaptation Arnaud Bertina.
Quatrième épisode.
Avec
Vincent Schmitt,
le narrateur.
Jean O'Cotrel,
le vieil homme.
Nicolas Gonzalez,
son petit-fils.
Laurent Horry,
Tony de la Guardia.
Samuel Churin,
Fidel Castro.
Emiliano Suarez,
le garde.
Emilien Tessier,
Prudencio.
Catherine Matelli,
la femme de Prudencio.
Et Marina Moncade, Manuel Ulloa, Paola Cordova. Bruitage,
Bertrand Amiel.
Conseillère littéraire,
Emmanuel Chevrière.
Équipe de réalisation,
Éric Villonfin, Mathieu Tourin, Yaël Mandelbaum, Jean-Mathieu Zand.
Pura Vida, Vie et mort de William Walker, de Patrick Deville, est publié aux éditions du Seuil. Hasta mañana.
À demain.